7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, vous nous emmenez dans une région du monde où très peu de journalistes se rendent, la Papouasie occidentale.
Oui, ce territoire à peine plus petit que la France, à l'ouest de la Nouvelle-Guinée, une île annexée par l'Indonésie en 1969 après un référendum totalement bidon organisé par l'armée indonésienne elle-même. Depuis, l'OPL, l'Organisation pour une Papouasie libre, se bat donc pour l'indépendance. Combat qui aurait déjà coûté la vie à près de 10 000 papous, mais sans qu'on ait le moindre chiffre officiel, car cela fait plus de 40 ans maintenant que les forces de sécurité indonésiennes bloquent tous les accès au pays, et d'abord aux journalistes. Souvenez-vous l'an dernier des deux reporters français, Valentine Bourra et Thomas Dandois, entrés avec un visa touristique et ressortis après 2 mois et demi de prison. Mais les taux commencent à se desserrer. Bonsoir Marie Dumière, en direct de Jakarta et tout juste de retour de Papouasie.
Bonsoir Michael.
Alors le président indonésien vient de lever les restrictions jusqu'ici imposées aux journalistes étrangers, car selon lui, il n'y aurait rien à cacher en Papouasie occidentale. Est-ce que c'est vrai, tout simplement, Marie ?
Rien à cacher, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de quoi être fier. La Papouasie occidentale est la région la plus militarisée d'Indonésie. Une présence que les autorités justifient par la menace de la branche armée de l'Organisation pour une Papouasie libre. La vérité, pourtant, c'est que ces rebelles sont peu nombreux et mal organisés et qu'ils n'ont jamais représenté de véritable danger pour l'Indonésie. Les atteintes aux droits de l'homme des forces de sécurité indonésiennes, par contre, elles, sont bien réelles. Écoutez Andreas Arsono, le représentant de Human Rights Watch dans le pays.
Toutes les semaines, je reçois des rapports sur les violations des droits de l'homme en Papouasie. Qu'il s'agisse de passage à tabac, de meurtres, de violences sexuelles, de discrimination à l'emprunt dans les banques, il semblerait que l'ignorance, le racisme ne s'arrête jamais.
Et Marie, les Papous sont aujourd'hui ultra minoritaires en Papouasie, alors qu'ils représentaient 96% de la population au début des années 70.
Oui, et c'est sans doute dans la capitale de la Papouasie occidentale, Jayapura, que la colonisation indonésienne est la plus visible. Ici, les Indonésiens sont partout, ils dominent très largement l'économie locale, et le symbole de cette colonisation pour les Papous, ce sont les marchés. À Jayapura, c'est vrai, l'image est frappante. On voit des femmes papous sur le bord des routes, leurs marchandises étalées sur le sol et derrière elles, des rangées de magasins, tous tenus par des Indonésiens. Écoutez Victor Yemo, le chef de la plus grosse organisation militant pour l'indépendance de la Papouasie occidentale.
Le marché, c'est comme ça. Pour les papous, c'est comme ça. Elles doivent essayer de vendre leurs produits ici. Il y a plein de poussière. Mais elles sont là quand même. Ce sont nos mères, elles sont papous. Mais les Indonésiens, ils sont là. Tous les Indonésiens sont dans les vrais magasins.
Lina travaille sur un marché. Pour elle, il n'y a qu'une seule solution.
Il faut que les Indonésiens partent, qu'ils rentrent chez eux. Sinon, ça va continuer comme ça.
Les indicateurs de développement en Papouasie sont les plus bas de l'archipel indonésien en termes de niveau de vie, d'éducation, de santé. Et ça aussi, ça rend les Papous furieux parce que figurez-vous, Michael, que la Papouasie est extrêmement riche en or, en cuivre, en gaz naturel. Des richesses qui sont principalement exploitées par des multinationales étrangères et qui rapportent gros à l'Indonésie, qui fait donc tout pour étouffer les revendications d'indépendance. Et pour ça, tous les moyens sont bons. À Jayapura, j'ai rencontré Basoka. Comme beaucoup de papous, il mastique un mélange de noix d'arec et de bétel, ça lui donne les dents rouges. Il porte un t-shirt aux couleurs du drapeau papou, un acte de rébellion pour les autorités.
Quand on organise des manifestations, on est beaucoup à porter ces t-shirts. La police nous ordonne de les enlever et menace de nous arrêter.
Des manifestations pacifiques, les militants en organisent régulièrement et elles sont souvent réprimées dans la violence. Depuis la création de l'organisation de Victor Yemo en 2008, 29 de ses membres ont été tués par les forces de sécurité. Victor Yemo lui-même a effectué plusieurs séjours en prison.
Et il n'est pas le seul, puisque selon les organisations de défense des droits de l'homme, il y a au moins 60 prisonniers politiques actuellement derrière les barreaux, Marie.
Exactement. Alors, dans un geste de bonne volonté, en mai dernier, le président indonésien Joko Widodo avait gracié 5 prisonniers politiques problème depuis, 14 autres se sont retrouvés derrière les barreaux. Dans la prison d'Abepura, à côté de Jayapura, j'ai rencontré le plus connu de ces prisonniers politiques. Il s'appelle Philippe Karma. Il a été condamné à 15 ans de prison pour rébellion. Son crime, avoir tenté de lever un drapeau papou lors d'une manifestation pacifique. Ça fait 11 ans qu'il est derrière les barreaux. Mais quand le président lui a offert le pardon en mai dernier, il a refusé. On a pu faire entrer un petit micro dans la prison pour l'interviewer. Écoutez-le.
J'ai refusé d'être gracié parce qu'accepter cette grâce, ça faisait de moi un criminel, alors que je suis un activiste politique. C'est pour ça que j'ai pas accepté. Je veux l'amnistie et la réhabilitation. Je n'ai fait que parler de nos droits sur nos terres. Alors pourquoi ça leur pose problème? Ils disent que l'Indonésie est une démocratie. Alors pourquoi ils m'ont arrêté?
Et vous vous êtes également rendu, Marie, à Okika, minuscule localité montagneuse au sud de Jayapura, uniquement accessible par avion. Là, on est loin de tout et là non plus, on ne veut pas de l'Indonésie.
Oui, Okika n'est qu'à 45 minutes de vol de Jayapura, mais là-bas, c'est un autre monde. Je suis partie avec Victor Yemo, le chef de l'organisation indépendantiste. C'était la première fois qu'il se rendait sur place. Il a été accueilli en grande pompe. Près de 1000 villageois venus des montagnes l'attendaient sur la petite piste d'atterrissage en herbe. Beaucoup d'entre eux là-bas portent des tenues traditionnelles, une dent de cochon ou parfois même un stylo leur traverse le nez. Des plumes sont accrochées sur leur tête et dans leur dos. Les hommes sont nus, seuls leurs pénis sont recouverts d'un koteka, un étui peignant. À l'arrivée de Victor Yemo, tous reprennent en cœur des slogans indépendantistes. Ici aussi, on ne veut pas de l'Indonésie, m'explique Julio, un des villageois.
Les Indonésiens nous traitent mal, on ne veut pas d'eux. Ils nous chassent, nous tuent, nous oppressent comme si on était des animaux.
Voilà, comme le résumera Victor Yemo plus tard, la seule chose que les habitants veulent ici, c'est d'être libres sur leur terre, c'est qu'on les laisse tranquilles.
Voilà, libre chez eux et qu'on les laisse tranquilles. Reportage en Papouasie occidentale signé Marie Dumière. Merci beaucoup.
Et à 3 semaines de la COP21, une bonne nouvelle, Michael, pour les écolos nord-américains.
Oui, une bonne nouvelle et même une victoire symbolique dans leur lutte contre l'exploitation des énergies fossiles. Après 7 ans d'hésitation, Barack Obama a en effet tranché avant-hier. Le projet Keystone XL ne verra pas le jour. Alors il s'agissait de construire un gigantesque oléoduc pour acheminer le pétrole bitumineux canadien de l'Alberta jusqu'aux raffineries américaines du Golfe du Mexique. Mais voilà, à l'approche de la conférence de Paris et de la fin de son mandat présidentiel, Barack Obama se veut désormais un exemple. Alors ce pipeline, c'est non.
The Keystone XL pipeline would not serve the national interests of the United States.
Voilà, c'est très simple. Le pipeline Keystone n'aurait pas servi les intérêts nationaux des États-Unis, nous dit Barack Obama, qui explique ensuite que l'Amérique est désormais, je le cite, un leader mondial en matière de lutte contre le changement climatique, allant même jusqu'à dénoncer la qualité du pétrole canadien extrait de ses sables bitumineux. Écoutez.
Shipping dirtier crude oil into our country would not increase America's energy security.
L'importation de pétrole plus sale, c'est lui qui le dit, ne renforcerait pas la sécurité énergétique des États-Unis. Et ce plus sale n'a pas été du tout du goût du ministre canadien des Affaires étrangères, Stéphane Dion.
Le Canada va être exemplaire sur le plan environnemental dans la lutte au changement climatique et que donc les produits canadiens peuvent être achetés partout dans le monde en toute confiance parce qu'on fait notre part.
Voilà, on fait notre part, dit Stéphane Dion, micro nos confrères de Radio-Canada. Alors, pas content, évidemment, d'autant que Barack Obama a curieusement oublié de rappeler que lorsque le projet d'oléoduc lui avait été soumis pour la première fois en 2008, il n'avait pas jugé le pétrole canadien si sale que cela. Mais en 2008, Nicolas, le baril de brut flirtait avec les $140 et la production américaine était 2 fois plus faible qu'aujourd'hui. De quoi évidemment rendre beaucoup plus attrayants les sables bitumineux de l'Alberta.
Et puis, une information en bref, Michael, en provenance d'Irak.
Oui, pas vraiment rassurante. L'Irak où l'épidémie de choléra s'étend, elle avait été détectée à la mi-septembre à l'ouest de Bagdad. En 2 semaines, tout le bassin de la capitale irakienne avait été contaminé. Et bien aujourd'hui, l'épidémie touche la Syrie, le Koweït et Bahreïn. Plusieurs dizaines de milliers de personnes infectées. Et inquiétude surtout pour les millions de pèlerins chiites qui se préparent à se rendre en Irak le mois prochain. Pour l'Arbaïn, l'une des fêtes religieuses les plus importantes du chiisme. Or, la maladie est extrêmement contagieuse et si elle n'est pas diagnostiquée à temps, elle peut entraîner une mort très rapide par déshydratation. L'UNICEF et les quelques ONG arrivée sur place tire la sonnette d'alarme, mais peu ou pas de services médicaux, peu ou pas d'argent. Et puis bien sûr, comme si cela ne suffisait pas, la guerre toujours contre les djihadistes du groupe État islamique. Conflit qui, vous le savez, a déjà déplacé près de 3 millions de personnes, dont beaucoup vivent dans des camps de réfugiés où les conditions sanitaires sont justement propices à la propagation du choléra.
Allez, on file à Rome maintenant, Michael, suite de ce qu'on appelle désormais le Vatilix.
Mais ces révélations, ou si vous préférez ces fuites savamment orchestrées pour décrédibiliser le Vatican à son sommet. La semaine dernière, deux livres révélaient au grand jour les malversations concernant les finances du Saint-Siège et puis les difficultés du pape François à faire le grand ménage initié par son prédécesseur. Pape incapable de mettre en place les réformes économiques promises, titrait presque toute la presse italienne. Eh bien, François fait de la résistance. Il a profité de l'Angélus hier pour faire le point et contre-attaquer. À Rome, les explications pour France Inter d'Olivier Tozzeri.
Le pape, plus déterminé que jamais, François a réaffirmé sa volonté de poursuivre son travail de réforme du Vatican, en particulier dans le domaine économique. Et ce, malgré les fuites de documents financiers secrets publiés récemment dans deux livres en Italie, aux titres évocateurs « Chemin de croix » et « Avarice ». L'incompétence, les actes malveillants et le train de vie fastueux de certains cardinaux y sont exposés, ainsi que les résistances à tout changement. François a même été enregistré à son insu lors d'une réunion où il dénonce les dépenses incontrôlées de la curie romaine. Le pape a tenu à rassurer les fidèles perturbés par ce nouveau scandale. « Ce triste fait ne me détourne certainement pas du travail de réforme qui va de l'avant », leur a-t-il dit lors de l'Angélus place Saint-Pierre. « Faire publier ces documents a été une erreur, c'est un acte déplorable qui n'aide pas », a-t-il conclu. François continuera donc malgré tout à essayer de changer les hommes, les mentalités et les lois au Vatican, avec un mot d'ordre, la transparence.
Et pour finir, cette première historique en Iran, une femme vient d'être nommée ambassadrice. Marzieh Afkam, 50 ans, était jusqu'ici porte-parole du ministère des Affaires étrangères et elle sera désormais ambassadrice d'Iran en Malaisie. Jamais une Iranienne n'avait atteint un tel niveau de représentation diplomatique. Et c'est donc sur les notes de Golbi Goldoun, tube de la plus célèbre chanteuse pop iranienne Gougouch, la star féministe des années 70, que je vous dis à demain.
À demain. می گفتی بی تو هیچم با من بمون همیشه نباشی من میمیرم گل بی گلدون نمیشه چه اشتباهی کردم گوش